Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune. Votre magazine de poésie vivante, La Route Inconnue, s'offre un dernier kilomètre avant de prendre 2 mois de repos qu'on dira mérité si on est un tant soit peu indulgent. Vous retrouverez tout à l'heure les chroniques de nos amis Jacques Morin, directeur de publication de la revue Des Charges, notre partenaire, Jean Antonini, directeur de la revue Gong, consacré au haïku, et Jean-Claude Touzeil, poète, blogueur à l'enseigne du Biloba et créateur du fameux Printemps des poètes de Durcé en Normandie. À l'honneur aujourd'hui, un auteur-éditeur, Alain Kewes, directeur des éditions Rhubarbe. Alain Kewes, bonjour.
Bonjour.
Alors, pardon, si j'en crois ce que j'ai pu lire ici ou là, vous êtes né en 1958 à Forbach, vous êtes nouvelliste, vous êtes critique, chroniqueur et donc éditeur, ce qui fait de vous une figure, comme on dit. Alors, je suis allé me promener sur Internet. Ça ne vaut pas une balade en forêt, mais tout de même, on y fait des trouvailles. Et il s'avère que, de l'avis de tous, vous êtes, Alain Kewes, un excellent écrivain. Le seul défaut qu'on vous trouve étant votre rareté. De tout cela, on va parler après les questions d'usage, si vous le voulez bien. Parlez-nous un peu de votre enfance à Forbach. Dans quelle famille êtes-vous né? Quel enfant avez-vous été et au coin de quel bois avez-vous découvert la poésie, la littérature plus largement, à laquelle vous avez consacré votre vie? Tout d'abord, l'enfance.
Alors, mon enfance est relativement ordinaire, pas d'événements marquants, si ce n'est, vous l'avez dit, je suis né à Forbach. Forbach est une ville frontière avec l'Allemagne et ma famille est d'ailleurs franco-allemande. Mon père est allemand, ma mère est française, dès le départ, installé dans une marge linguistique, puisque j'ai appris le français à l'école, je parlais une espèce de patois allemand, comme on parle dans cette région-là, de la Moselle Est. J'ai toujours aimé ce qui était différent en l'autre. Hein, qu'il soit celui de l'autre côté de la frontière, mais aussi Forbach étant une ville ouvrière, les mines, c'est une ville cosmopolite, c'était une ville cosmopolite, puisque les mines ont fermé depuis belle lurette. Et je crois que quelque part, ça a prédestiné, peut-être pas mon envie d'écrire, évidemment, ou d'éditer encore moins, mais cette attention aux mots, cette attention à la différence et une certaine bienveillance à l'altérité. Ouais. Alors, pour répondre à votre question, la poésie, je ne l'ai pas découverte très tôt, même plutôt tard, puisque, bien sûr, j'ai écrit quelques poèmes très mauvais dans ma prime adolescence, mais justement, quand je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait que de très mauvaises imitations d'une poésie du 19e siècle, Baudelaire ou Verlaine, enfin des vers rimés, j'ai préféré arrêter les frais à ce moment-là et je me suis tourné vers la prose courte, la nouvelle plutôt.
Ouais. Alors comment se fait-il que les éditions Rhubarbe publient, pas seulement, il est vrai, mais surtout de la poésie?
Alors justement, donc si je ne l'ai pas découverte pendant ma prime enfance, c'est que je l'ai découverte plus tard, en particulier, pas seulement, mais en particulier avec ma collaboration avec la revue Des Charges, dont je suis devenu chroniqueur dans le courant des années 90, je ne sais plus exactement. Jacques Morin m'avait demandé à l'époque de parler d'autre chose que de poésie. Donc j'étais le coin de la nouvelle enfoncé dans une revue entièrement consacrée à la poésie. Alors évidemment, comme je vous le disais, j'aime bien lire ce que font les autres, donc je parlais de nouvelles dans une revue de poésie, mais ça ne m'empêchait pas de lire à la poésie qui était autour, bien au contraire. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai découvert, on va dire, l'extrême contemporain de la poésie. Bien sûr, dans ma vie professionnelle et dans mes curiosités, j'avais découvert des grands noms, je veux dire Michaud ou Tardieu et quelques autres, Prévert, voilà. Mais l'extrême contemporain, je l'ai vraiment découvert avec Des Charges et aussi avec toutes les revues existantes qui me sont passés entre les mains et que j'ai lu avec plaisir et surprise, parce que c'est un monde que j'ignorais à peu près totalement.
C'est cette rencontre avec la poésie contemporaine qui a précipité la création de Rhubarb.
Oui, alors ça l'a effectivement précédé, mais il n'y a pas eu de lien direct. C'est-à-dire que j'écrivais des nouvelles, et par ailleurs, je chroniquais donc dans la revue des charges, mais dans quelques autres aussi. L'édition m'est tombée dessus un petit peu par hasard. C'est-à-dire que je n'y suis pas entré après une étude marketing et puis des compétences bien définies et même un projet bien défini. Tout ça s'est fait sur le tas, si je puis dire. Mais par exemple, dans mon catalogue, finalement, avec Jacques Morin, nous avons très très peu d'auteurs communs. Je n'ai pas repéré dans la revue des auteurs que j'aurais voulu éditer, par exemple. C'est un chemin parallèle qui s'est dessiné et qui continue d'ailleurs de se faire comme ça. Il n'y a pas de passerelle directe entre la revue et la maison d'édition. Il n'y a pas de lien, de lien constitué, si ce n'est moi.
Alors, vous avez donc fondé Rhubarb en 2004. Et je me demandais pourquoi vous aviez appelé cette maison d'édition Rhubarb. Et vous avez écrit quelque part que la particularité gustative de la rhubarb est analogue à la saveur littéraire des textes que vous publiez. Rappelez-nous le goût de la rhubarb.
Ah, le goût de la rhubarb, comment dire? Alors d'abord, c'est une drôle de plante, parce qu'on ne peut pas la classer ni vraiment en légumes, ni vraiment en fruits, qu'on n'en mange ni les feuilles, ni les racines, ni le fruit, ni la fleur, on en mange la tige, on mange ce qui est entre. Hein. On mange le côté anonyme, humble de la plante, ce qui va d'un endroit à l'autre, de la racine à la feuille. Ça, déjà, c'est un premier point pour lequel la rhubarbe m'intéressait. Le goût, bien sûr, le goût de la rhubarbe, c'est un goût qui n'est pas immédiatement plaisant. Si vous donnez à croquer de la rhubarbe fraîche cueillie dans le jardin à quelqu'un qui ne s'y attend pas, qui ne connaît pas ce goût-là, il va avoir une mine un petit peu dépitée. Et puis, c'est le pari aussi de la maison d'édition, c'est que ce goût acide, ce goût, non pas amer, mais acide, a un petit air de revenez-y, c'est-à-dire qu'on y goûte, d'abord à petite bouchée, en croquant un petit peu, et puis on y revient. C'est le pari de Rhubarb qui est de ne pas publier des choses immédiatement sucrées, immédiatement plaisantes, peut-être, mais de c'est une ambition, hein, de former un goût, de faire un pari, de dire à un lecteur, goûte-moi ça, tu vas voir. Tu vas être surpris, mais tu vas aimer, ou tu vas finir par aimer.
Oui, c'est le maître mot, la surprise. Vous aimez être surpris, voire même bousculé, dérangé. Ce sont ces textes-là qui auront votre préférence.
Oui, alors, bousculé, dérangé, ça n'est pas le goût de la provocation pour la provocation, bien sûr. Mais effectivement, je suis toujours en quête de surprise, ce qui fait que d'un livre au suivant, il est sans doute difficile de dessiner une logique éditoriale. Ce qui m'intéresse quand je lis un manuscrit, c'est la part inédite, inouïe, quelque chose que je n'avais jamais lu. Je ne poursuis pas la même piste d'un manuscrit à l'autre, ce qui donnerait une forte cohérence au catalogue. Là, j'ai publié par exemple un recueil d'Amina Saïd qui est de la poésie épique, mythologique, un long poème avec des stances assez longues sur l'aventure d'Alexandre le Grand en Perse, donc Iskander, c'est son nom vu par les Perses. Et puis après, je vais publier des poèmes très brefs, par exemple de Werner Lambertsy, qui sont presque comparable pour le dernier recueil en tout cas, à des haïkus, parce que ce sont des 3-4 lignes et de 5-6 mots.
Ouais, nous en lirons des extraits tout à l'heure d'ailleurs, je le dis tout de suite à nos auditeurs.
Et de même qu'en prose, je ne cherche pas dans les manuscrits quelque chose que j'aime déjà et que je souhaite y retrouver, parce que là, je construirais un catalogue autour de mon goût initial, mais plutôt je cherche la diversité de l'autre, c'est-à-dire des choses que je ne pourrais absolument pas écrire, que je n'avais jamais imaginées, et des façons d'écrire la poésie qui me surprennent, qui m'amusent, qui me déconcertent, qui éventuellement me demandent à moi-même une démarche volontaire d'entrer dans un rythme, d'entrer dans une pensée, d'entrer dans une musique qui n'est pas la mienne.
Ouais. Alors, je crois savoir que vous aimez beaucoup les textes qui sont difficilement étiquetables, qui sont un peu aux marges des formes littéraires ordinaires, et finalement...
Des textes de frontières.
Des textes de frontières. C'est un peu ceux que vous écrivez également. Je crois savoir que vous avez finalement fondé Rhubarbe pour publier un de vos textes que vous jugiez impubliable ailleurs. Est-ce que c'est vrai?
C'est tout à fait comme ça que ça s'est passé. Je corrigeais un manuscrit de nouvelles que j'avais sous la main, et puis des mots parasites me venaient à l'esprit, et vraiment parasiter mon travail. Et plutôt que d'essayer de les chasser, parce que vous savez que quand vous avez une musique dans la tête, il n'y a pas moyen de s'en débarrasser, eh bien, je les ai écrits, je les ai notés. Voilà. L'objet final, alors il s'agissait d'une nouvelle érotique en alexandrin. Un petit peu comme vous voyez les contes licencieux de La Fontaine, par exemple. Sauf que les contes de La Fontaine ne sont pas en vers... Enfin, pas tous, en tout cas. C'est un genre qui se pratiquait, allez, au 16e, 17e, peut-être au 18e encore, à une époque, mais qui n'existe plus, qui ne me paraissait absolument pas envisageable de proposer à mes éditeurs. Donc, voilà. Rhubarbe est né comme ça, par hasard. Je me suis dit que ce poème était tout de même... Je l'aimais bien. Et donc, je me suis dit que j'allais l'auto-éditer. Donc, j'ai cherché à l'imprimeur, j'ai mis Rhubarbe en bas parce qu'il y avait un emplacement pour mettre un nom d'éditeur. Et pour moi, l'aventure s'arrêtait là. Et je pouvais retourner à mon travail sérieux de grande personne. Voilà. Mais évidemment, une fois qu'un livre existe, la tentation existe du deuxième livre. C'est comme la marche, un jeu entre équilibre et déséquilibre. C'est-à-dire que si je m'arrête en plein pas, bah, je tombe. Donc le deuxième livre est arrivé, proposé par Michel Host.
Prix Goncourt, hein, qui a obtenu un prix Goncourt. Ouais.
Donc qui est connu en tout cas comme romancier, nouvelliste, et qui m'envoie ça pour... nous nous connaissions déjà, donc il me dit, tiens, qu'est-ce que tu en penses? Je le lis, il s'agit du poème d'Hiroshima. Je lui dis, c'est très bien, mais... Ah oui, c'est vraiment très très bien. Il me dit, c'est le premier texte que j'ai écrit, avant même d'écrire le moindre roman, j'avais commencé par ça. Mais je ne l'ai jamais publié, je l'ai écrit dans les années 60, au début des années 60. Je dis, ah, c'est dommage, il gagnerait à être édité. Il me dit, édite-le. Il m'a renvoyé vers cet opuscule que j'avais commis, et donc Rhubarbe existait avant que je le sache, et sans que je le sache. Et ensuite, le deuxième, le troisième, le quatrième sont arrivés où, pour être honnête, une fois que le deuxième livre est paru et que je me suis engagé dans cette démarche éditoriale, j'ai quand même réfléchi à ce que je pouvais faire, à ce que je voulais en faire. Et la première chose qui vient à l'esprit, c'est pourquoi devenir éditeur? On ne manque pas d'éditeurs en France, même en poésie. Donc, pourquoi devenir éditeur et donc trouver une utilité? Éditer ce que d'autres n'éditent pas encore, ou pas suffisamment. Et par exemple, dans mes premiers ouvrages publiés, j'ai édité des livres très très courts. Des nouvelles isolées, des livres de 20 pages, de 25 pages. Parce que, en tout cas, à ma connaissance, au début des années 2000, il n'y avait pas d'éditeur qui occupait cet espace-là. Et j'ai toujours été assez, en tant que nouvelliste, mais je pense que pour le poète, le questionnement est le même. Qu'est-ce que l'œuvre? Est-ce que c'est la nouvelle ou le recueil de nouvelles? Est-ce que c'est le poème ou le recueil de poésie? J'ai souvent eu des auteurs qui m'ont dit, voilà, j'ai un texte j'ai une nouvelle ou une novella, 20, 30, 40 pages. Et mes autres éditeurs me disent, bah oui, il est bien, mais tu pourrais pas l'enrober pour en faire un recueil. C'est-à-dire qu'il l'accepterait à condition qu'il soit complété par d'autres textes. Et je crois sincèrement que certains textes, qu'il s'agisse de prose ou de poésie, se doivent d'être publiés seuls, parce qu'ils ont une cohérence, ils ont une unité, et que le fait de les entourer par d'autres, donc de faire un recueil, n'est qu'une convention ou une concession à une nécessité commerciale ou à une volonté autre, qui est celle de l'éditeur, du libraire, et d'autres considérations qui ne sont plus des considérations artistiques. Donc voilà, j'ai commencé à publier des textes très brefs, et puis ensuite l'histoire fait que, bien sûr, je ne suis pas resté sur cette ligne-là stricto sensu, c'est-à-dire qu'après j'ai publié toutes sortes de choses.
Ouais. Alors, vous dites quelque chose de très intéressant à propos de l'édition, c'est une forme de création littéraire, dites-vous, c'est-à-dire que le texte, tant qu'il n'est pas édité, il n'est pas fini.
Ah oui, bien sûr, mais ça je l'ai expérimenté sur moi-même, enfin en tant qu'auteur, et avant donc de créer la maison d'édition, c'est qu'un texte qui n'est pas publié, on a toujours la tentation de le retoucher, de le réécrire, de le reprendre, de le triturer. Et le seul point final est posé par l'autre qui peut être qui est celui qui va faire autre chose d'un livre, d'un texte, qui va en faire un livre. Tant que le texte est dans les tiroirs ou sur un ordinateur, etc., c'est une relation de l'auteur à ce qu'il écrit, et donc un dialogue, et donc un échange, et quelque chose qui est en permanente mutation. C'est-à-dire que le texte, il vieillit avec l'auteur. S'il a écrit un poème à 20 ans et qu'il ne l'a pas publié, ben, il peut le réécrire, et il continuera de le retoucher jusqu'à ses 60 ans et au-delà. Mais le texte, il vieillit avec l'auteur. Alors que l'éditeur qui le prend et qui dit cette fois-ci, je te prends ton texte, je te dépossède d'une certaine manière de ton texte et je le donne à des lecteurs. C'est l'idée de l'édition. Et à ce moment-là, le texte n'appartient plus à l'auteur, mais il appartient à tout lecteur qui se l'approprie et qui établit, lui, une relation avec le texte.
Est-ce que vous avez...
Quand je lis un livre à 20 ans, je peux le relire à 60 ans, je n'ai plus la même relation au livre que j'avais eu. Bon, ça m'arrive de relire des livres que j'ai lus il y a très très longtemps, et évidemment, je le lis différemment. Mais ça, c'est la relation que j'entretiens, moi, avec un livre publié. Et l'auteur n'a pas à y mettre son nez. Il ne peut pas y mettre son nez, de toute façon.
Voilà. Tout à fait, j'entends bien ce que vous me dites. Est-ce qu'il vous arrive de retravailler un texte avec l'auteur? Est-ce que ça vous arrive de dire ça?
Ah oui, bien sûr. C'est toute la, à la fois la difficulté, mais aussi tout le bonheur de l'édition telle que je la considère, c'est d'essayer de voir dans un manuscrit qu'on m'envoie, et que bien sûr l'auteur juge terminé, de voir les pépites, mais éventuellement aussi les poussières ou les défauts. Il y a un peu du travail du diamantaire, si vous voulez. Le manuscrit contient toute la richesse de l'écriture de l'auteur, mais l'auteur est souvent le plus mal placé, et ça aussi je l'ai repéré sur ma propre pratique d'écriture, pour en voir les défauts, les redites, les tics de langage, parfois des choses inutiles ou mal exprimées. Et je parlais de diamantaire, je pourrais parler aussi d'accoucheur, c'est-à-dire que l'éditeur a en dialogue avec l'auteur. Il ne s'agit pas évidemment de substituer mon appréciation ou ma manière d'écrire ou de voir le texte à celle de l'auteur. Mais d'arriver ensemble, en dialoguant, et parfois il y a des allers-retours, il y a 4, 5, 6 allers-retours, ça peut prendre des mois. Hein. Pour certains textes, ça a pris des mois. Et ça ne veut pas dire du tout dans mon esprit que ce texte était moins bon. Mais il a fallu le mettre au point, voilà, mettre au point, accoucher du texte final, et encore, bien sûr, je me rends bien compte que si on avait continué à échanger, peut-être qu'on aurait encore changé des choses. Il y a toujours un moment où il faut s'arrêter et dire, bon, voilà, cette fois-ci, on publie le livre parce qu'il est le meilleur possible au moment où on prend la décision. Avec les auteurs... Je leur dis souvent, il faut que quand le livre paraisse, on ne regrette aucun mot, qu'on ne regrette pas une expression, pas une formulation, Et ça, c'est un risque et c'est un pari. Alors... Se reconnaître, il faut que le livre soit vraiment l'expression la plus précise de ce qu'on a voulu faire.
Ouais. Alors, une fois que le livre est publié, il faut évidemment le vendre. Et là, vous êtes très exigeant avec vous-même. Vous dites que vous êtes lié par un contrat moral avec l'auteur, c'est-à-dire de faire connaître son travail par tous les moyens. Donc, vous êtes quelqu'un qui passait beaucoup de temps à la commercialisation du livre.
Les qualités de vendeur, je ne suis même pas persuadé d'en avoir tant que ça. Mais effectivement, le contrat moral, c'est la base même de l'édition. C'est-à-dire qu'un auteur vous confie un travail auquel il tient, auquel il a consacré un certain nombre d'heures, de jours, de nuits. Et donc, c'est quelque chose de précieux, un livre. La moindre des choses en face, c'est que l'éditeur ne se contente pas de l'imprimer et de le conserver tranquillement dans ses cartons. L'engagement moral de l'éditeur, c'est « je vais faire ce que toi, auteur, n'as pas le temps ou les moyens ou les compétences de faire », c'est-à-dire essayer de lui faire trouver ses lecteurs.
Oui. Comment la diffusion, on le sait que c'est un problème pour l'édition de poésie, comment vous travaillez ?
Alors, je fais de la diffusion directe, c'est-à-dire, bien sûr, de la mise en place dans des librairies sous forme de dépôt, de moins en moins, parce que ça a beaucoup de défauts, cette formule-là. J'ai également un certain nombre de relais... sur d'autres lieux qui sont pas forcément des lieux du livre. Bon, je sais pas, là, j'ai une collection de théâtre et j'ai des textes qui sont en vente dans des théâtres, par exemple. Et puis ensuite, la diffusion, ce sont les salons, ce sont les rencontres en bibliothèque, ce sont les lectures, ce sont tout un tas de formules comme ça, sans parler du site internet et des commandes en ligne, bien sûr.
Oui.
Mais c'est ça la diffusion. Alors après, techniquement, j'ai un comptoir de distribution à Paris, c'est-à-dire que vous savez, les coursiers peuvent en 5 minutes avoir n'importe lequel de mes ouvrages sur Paris et Île-de-France. Oui. Pour le reste de la France, non. C'est la diffusion, c'est la Poste qui l'assure.
Oui. Il nous reste 2-3 petites minutes. Je voudrais qu'on parle de Alain Kawes, l'auteur, et particulièrement de l'auteur de nouvelles. Vous avez beaucoup publié, hein, beaucoup publié de nouvelles dans des revues, des anthologies. C'est un genre que vous affectionnez tout particulièrement. Qu'est-ce qui se joue dans une nouvelle, finalement, qui ne se joue pas dans une pièce ou dans un roman, évidemment. C'est un genre nerveux, évidemment.
C'est un genre nerveux, et je pense qu'il est assez... C'est proche finalement de l'exigence poétique, puisqu'il s'agit de dire le plus de choses possible avec le moins de mots possible. De même qu'en poésie, l'idée est de chasser le superflu. Un poème ou une nouvelle, ce sont des pierres, ce sont des cailloux qui sont polis. y a, chez le nouvelliste et chez le poète, cette attention à la langue. Oui. C'est pour ça aussi que j'ai souvent dit, ça s'appliquera plutôt à des manuscrits en prose, que finalement l'histoire racontée m'importait assez peu. Ce qui m'importe, c'est le rapport à la langue, la façon de la raconter. Tout a été dit depuis Lurette. Donc le seul intérêt et la seule originalité, c'est la façon de dire les choses, de dire l'amour, de dire la mort, de dire la solitude, de dire le bonheur, de dire le plaisir, de toutes ces émotions et toutes ces sensations. Ce n'est pas tellement le contenu qui importe, c'est la façon de les dire. Et ça, effectivement, moi, en tant qu'auteur, mais aussi en tant qu'éditeur, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Et je peux passer des mois sur une nouvelle. Je ne suis pas sûr d'avoir beaucoup publié, contrairement à ce que vous disiez.
Allé voir votre bio-biblio, il y a quand même pas mal de nouvelles qui ont été publiées.
Oui, c'est parce que j'ai commencé il y a longtemps.
Alors, c'est amusant de voir que, notamment aux États-Unis, les nouvellistes sont souvent... poète, moi je pense à Carver, dont on vient de redécouvrir l'œuvre poétique complète, qui est un nouveliste extraordinaire. C'est un des auteurs que vous aimez, par exemple?
Oui, bien sûr, Carver, je le connais plus en nouveliste qu'en poète. Mais quand je vous disais que j'aimais bien les textes en frontière, j'ai publié par exemple 4, 5, enfin je vais en publier un à la rentrée, ouvrages de René Ponce, qui sont des textes d'une page dont on serait bien en peine de dire si ce sont des micro-nouvelles ou des poèmes en prose ou des récits. Et là, on est vraiment dans une langue très travaillée. Et voilà, donc finalement, la différence entre un poème et une nouvelle, pour moi, ça tient à très très peu de choses. Oui. Tient à très très peu de choses. Effectivement, dans des cultures qui n'ont pas forcément la passion du vers et encore moins de la rime, bien sûr, un poème c'est une prose brève d'apparence. Cette idée d'aller à la ligne au bout de quelques mots et de mettre une majuscule à la première lettre, elle est finalement très très liée à notre tradition française de la poésie.
Ouais. Alain Kawes, un grand merci à vous. Si on veut se renseigner sur les éditions Kawes, commander des livres, comment fait-on?
Eh bien, on peut... En général, si on va sur Internet et qu'on tape édition Rhubarbe, c'est la première réponse qui sort. Donc on peut s'adresser, on peut bien sûr regarder, fouiller un petit peu sur le site de la maison d'édition. Sinon, on peut aller voir en librairie. Il y a quelques librairies quand même qui ont quelques titres, en tout cas les derniers. Et puis sinon, on peut m'écrire, on peut me demander. Ou alors venir rencontrer les auteurs qui interviennent en bibliothèque, en librairie, sans parfois que je le sache, hein, bien sûr, parce que les auteurs ont leur propre cheminement. Voilà, il y a mille manières de rencontrer les poètes. C'est un petit peu plus difficile de rencontrer un éditeur, parce que ça n'est pas son rôle, il n'est pas là pour être vu, lui. C'est le machiniste à l'arrière, mais c'est pas très important. Par contre, la maison d'édition, oui, allez sur édition-rhubarbe.com et vous aurez plein d'informations.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Merci à vous. Merci à vous.
Un éléphant m'occupe tout entier. Comme je ne suis pas bien gros, il est à l'étroit sous ma peau, et ses efforts pour se mouvoir, ne serait-ce qu'élever une seconde sa trompe, changer de patte d'appui ou remuer sa queue de colère et d'agacement, me sont une insupportable torture. Si, d'ennui, il lui prend la fantaisie de mettre l'œil à mon orbite, pour voir un peu le monde, il me confisque toute la lumière.
Je ne peux que marteler des deux poings pendant des heures la peau épaisse de sa cuisse jusqu'à ce qu'il se bouge. Je ne lui en veux pas, notez bien. Nous sommes tous deux désolés de cet état des choses, en souffrons chacun notre part. Oh, comme je regrette le jour funeste où, léger, hélas, bien trop léger, je l'ai invité à entrer en moi, comme il le regrette lui aussi, probablement. S'il est une vertu que je dois à l'éléphant qui m'habite, c'est la patience. Plus jamais je ne me précipite pour un regard, un geste de la main, l'inflexion d'une voix. Je ne cueille plus les fleurs au bord du chemin et ne grimpe plus aux arbres. Le plus souvent, je reste assis sur ma chaise, les deux mains sur mon ventre, à écouter palpiter son cœur. Ainsi, je ne tombe presque plus. Mais voilà que je me languis des désastres. Voilà que les écroulements périodiques des murs de ma chambre qui tant m'incommodaient il n'y a pas si longtemps me semblent aujourd'hui doux et désirables. Éternel insatisfait, je n'ai rien appris. J'endure mille maux du fait de ma situation. Mes oreilles se bouchent, ma jambe s'engourdit, mon crâne est perpétuellement l'objet d'une pression extraordinaire, sans compter que mon éléphant, franchement, ne sent pas toujours très bon. Mais ce que je crains le plus, c'est qu'en pris d'une crampe soudaine, mon éléphant détend l'une de ses pattes en moi, en général l'arrière droite, et qu'elle vient buter contre mon foie. La nausée m'envahit alors tel un raz-de-marée et une envie de vomir jusqu'à mon âme, ma plus misérable pensée, me cloue au lit des heures durant. Mon éléphant, bien sûr, connaît mon point faible. Je lui sais gré des efforts qu'il produit pour retenir longtemps, le plus longtemps possible, son geste. Souvent, je l'entends qui sifflote comme si de rien n'était, et je suis ému aux larmes parce que je sais. Quand il n'en peut plus, que la démangeaison devient réflexe, le coup qu'il me porte n'en est que plus atroce. Mon éléphant s'ennuie et je me sens vaguement coupable de ne lui prodiguer aucune distraction. Ma conversation n'a plus guère d'effet sur lui. Qu'ignore-t-il encore de moi? Il devient mélancolique. Il faut dire que mon éléphant et moi n'avons pas du tout les mêmes goûts. Sans doute, ne lui déplairait-il pas de humer de temps en temps, fût-ce à travers mes narines, l'odeur de l'herbe jaune et humide, d'entendre, même assourdi par mes oreilles, le bruit des branches qui craquent sous les pas. Mais je n'aime pas trop la campagne, et quant à faire craquer des branches sous mes pas... Hier, mon éléphant était malade. Il n'a pas su, ou pas voulu, me dire de quoi il souffrait, mais je l'entendais gémir en moi. Tout mon corps en répercutait la vibration. La plainte de l'éléphant malade est des plus angoissantes, si bien que de tout le jour, je n'ai pu vaquer à mes affaires sans penser à lui. J'ai même imaginé consulter un vétérinaire, mais la difficulté des explications préalables, et dois-je l'avouer, l'éventuel remède qu'il aurait prescrit, que j'aurais bien été obligé de prendre à sa place, m'ont retenu. Afin de masquer ma lâcheté, je lui ai demandé « N'y a-t-il rien d'autre que je puisse faire pour toi ?» Voilà pourquoi j'ai couru à perdre haleine, portant mon éléphant pendant toute la soirée à travers les parcs et les jardins de la ville. Seuls les saccades de mes pas le berçaient et le calmaient un peu. Il finit par s'endormir, et je m'arrêtais épuisé, mais quand même libéré du poids de la culpabilité qui pesait sur ma conscience. Un jour, c'est probable, mon éléphant et moi, nous nous séparerons à l'amiable. Je recouvrerai à la seconde toute mon agilité, lui son espace. La vie reprendra. Pourtant, je sais déjà que cet instant sera le plus triste de mon existence, celui d'un ineffaçable constat d'échec dont le poids purement morale pèsera pourtant autrement plus lourd sur ma conscience. Et que dire des vastes solitudes nouvelles qu'il me faudra habiter? Il vaudra mieux ce jour-là que nous nous éloignions sans tarder, sans nous retourner, sans jamais nous revoir, de peur de recommencer. » Après ces textes excellents d'Alain Kewes, je vous propose de découvrir l'un des derniers livres publiés aux éditions Rhubarbe qu'il dirige, qu'il a créé. Il s'agit de cet hommage à Calder de Werner Lambersy, une des grandes voix de la poésie française contemporaine. La nuit tombe vite. On guette en bout de piste les avions, gros porteurs, promis à la naissance. On scrute en vain le vieux cordon ombilical du tarmac. Dans les jardins de l'œil, les chenilles en ont presque fini avec les feuilles tendres du jour. Le soleil montre ses vergetures, son sexe ras d'accoucher dans un lit d'hôpital. La mauvaise toux des vélomoteurs secoue la cité. Le néon vide son dentifrice sur la chaussée. Demain, l'aube aux coiffes de nurse redressera l'oreiller brumeux des plus faibles, et d'autres écouteront les oiseaux enroués de la machine à café. Ici, où presque plus personne ne passe, l'herbe et les ronces ont reprisé les chemins creux de l'âme. La part sauvage est revenue avec un fort désir de femme et de vin, aux saveurs d'estuaire, d'utérus et de pubis pluvieux. 1941, l'automne où je suis né fut un grand millésime de sang dans la mémoire des papillons. En l'an de grâce et de guerre, 2003, autour de Dieu et du pétrole, ici où presque plus personne ne passe, même pour cueillir les mûres d'un peu d'amour à la pointe d'un sein ou les myrtilles d'un peu d'encre au bout des doigts, nous eûmes un cru de bonne garde et long en bouche. Dans le récit des éphémères, les soirs d'orage autour des crématoires crépitant de nos lampes de chevet. Le sexe sur les panneaux du métro mange son repas froid de pin-up. Lumière délitre dans le couloir en céramique des yeux. Le cœur est emballé dans du papier boucherie. Les plâtres du porno s'écaillent et partent en cloque dans l'arrière cour du plaisir. On tue l'image comme on élève en batterie les porcs et les poules pour les fours à micro-ondes du coït. Les gens qui n'ont pas de mort n'ont pas d'avenir. Les gens qui ne sont morts qu'une fois n'ont pas d'avenir. Les gens qui n'ont pas tué l'avenir n'ont pas d'avenir. et le présent n'est pas pour eux, et pas non plus l'éternité de nos petites morts. Mon fils regardait l'eau, et l'eau le regardait aussi. Il avait 6 ans, et l'eau ne disait pas son âge. Il n'y avait pas entre eux l'épaisseur d'un ange, et pourtant, ils étaient deux. Le jour ne comptait pas 16 heures, et le bonheur tenait ses libellules dans la légèreté. Le pouls des galaxies battait de son imperceptible paupière et d'un lent bouillonnement de lait sur un feu doux. Un souffle dans les feuilles faisait voler des fils de la Vierge comme des cils de fan. Mon fils rêvait sur la berge, et l'eau s'en retournait vivre dans son nuage, au-dessus de la mer. Au début, il y a le début, rien d'autre que la matière anatomique des mots, la matière manquante de l'âme, et la matière en cours du corps. À la fin, il n'y a que la fin, rien d'autre, sauf la matière manquante de l'âme qui est toujours là. Je remercie le papillon qui, hier après-midi, a bien voulu passer le quart de sa vie avec moi. Même si je ne savais pas non plus quand il faudrait mourir, ni s'il y aurait d'autres buissons où nous pourrions nous retrouver plus tard. Le côté un peu rude de tes jeans, comme ces boîtes en plastique où je range tes photos, le côté un peu lisse de ta peau, comme un fil électrique qu'on dénude au canif, le roulis un peu lent de tes hanches, comme une sortie d'astronaute dans l'espace, entre crachotement radio et vol silencieux de météores, et oh, le côté un peu là de l'explosion de nos astres dans l'effacement lointain de la lumière. C'est un poème que j'ai commencé à 10:30, ça je le sais. Tu venais de remonter de notre bouche océane le bathyscaphe rose de ta langue, et tes cuisses me quittaient comme des tours qu'un séisme vient d'ébranler. Alors j'ai regardé l'heure juste pour savoir quand la fin du monde venait d'avoir lieu. Voilà, c'était un extrait de L'hommage à Calder de Werner Lambersy, publié aux éditions Rhubarbe. À présent, je vous propose d'écouter la chronique de notre ami Claude Verset, poète et l'un des augustes collaborateurs de la revue des charges, notre partenaire.
Bonjour à tous, bonjour Christophe. Connaissez-vous beaucoup de poètes qui traitent de pacotille ou même de camelote la poésie qu'ils vous proposent? Et il ne s'agit pas pour Étienne Paulin de prendre la pose. Étienne Paulin, dont on peut se demander, bien qu'il publie régulièrement, et les éditions Henri entre toutes lui sont fidèles, s'il ne cherche pas dans le même temps qu'il publie, a passé inaperçu. Néanmoins, il vient de faire paraître 30 poèmes, c'est le titre, où il se montre toujours plus économe dans son écriture et toujours plus désenchanté vis-à-vis du monde qui l'entoure comme vis-à-vis de son écriture. On aurait presque honte de marquer le plaisir que l'on prend à cette lecture, plaisir égal à celle prise certes depuis plus longtemps, aux écrits d'un Jean-Pierre Georges, avec lequel Étienne Paulin partage désormais plus d'un trait mélancolique. Écoutons-le. Tout allait mal et mes poèmes sentaient la sardine. Ou encore, je suis au paradis de la tristesse. Partout volette le temps mort et le feu ne prend pas. L'une et l'autre de ces deux citations ont en commun d'ouvrir des poèmes, ce qui est tout un art de l'attaque, pour emprunter un terme au vocabulaire musical. Et si j'en crois à un récent débat sur France Musique, c'est souvent l'attaque qui fait la différence entre deux interprétations orchestrales. Et bien de même, entre deux écritures. Ou pour suivre les conseils d'Étienne Paulin, la phrase inchangeable est mise à la proue. Un autre exemple d'ouverture marquante de poème, celle-ci. « Oh, les gens qui s'ennuient et nettoient leurs vitres !» Décidément, dira-t-on, cette poésie s'attarde à des riens. Tes yeux disaient « rien presque » et « presque rien », comme il est noté dans cette page où l'on voit le poète penché sur un volume posé sur ses genoux et qui n'est autre qu'un volume de E. Cummings, indication précieuse, qui éclaire la démarche d'Étienne Paulin, dont le recueil se referme sur un poème dédié à ce même poète américain, justement admiré, et auteur, rappelons-nous, de 58 plus 58 poèmes, titre dont on peut penser qu'il a inspiré les présents 30 poèmes. Eh bien, je vais vous en lire un. Venez sourire un peu avant qu'on enfouisse. Je m'étais trop avancé. Voilà ce qui arrive. Quand on meurt, tout se tronque et c'est tout. C'est une déflagration vue de l'intérieur. Sûrement, circulez. Cette histoire s'est passée sur un guet. Vous dire à quel moment, voici des mots qui ne servent pas. C'est la dernière chance de voir un homme. Vous devriez en profiter. Ramenez-vous, car tout est là. C'est la dernière chance de voir un homme. Vous devriez en profiter. Ramenez-vous, car tout est là. Bon, ben, je ne vois aucune raison de résister aux invites d'Étienne Paulin à ses 30 poèmes suivis de « Vers la vraie pacotille » qu'on trouve dans les Écrits du Nord aux éditions Henri. Le mieux est encore de se reporter sur le site de ces éditions. Quant à 58 plus 58 poèmes de E. Cummings, cité au cours de ce billet, il avait été publié chez Bourgois. Allez, bel été à tous et rendez-vous à la rentrée.
Cécile Guivarch est poète, elle anime un site qui s'appelle Terraciel, qui est très intéressant, allez-y, jetez un coup d'œil, vous aurez un panorama assez complet de ce qui se publie aujourd'hui dans la poésie française, et Cécile nous offre tous les mois un, voire deux coups de cœur. Qu'en est-il aujourd'hui? Je vous propose d'en prendre connaissance.
Bonjour Christophe, bonjour à tous. Donc, pour cette fois, deux coups de cœur. Un livre d'Isabelle Levesque, Voltige aux éditions de l'Herbe qui tremble, et un livre d'Éric Sautou, À son défunt, chez les éditions Faye Fioc. Donc, le livre d'Isabelle Levesque, donc déjà, c'est un bonheur de retrouver sa langue, et ici, surtout, elle est aérienne et fleurie. Singulier en mouvement, Voltige, c'est un livre de fleurs et de souffle. Le vent, il est à la fois fougueux et léger, et il entraîne avec lui la voltige des fleurs, une danse folle où les pétales se mêlent parfois aux lèvres d'une nuit passée. L'écriture permet aussi bien de retrouver des pas dans la neige que de donner des signes d'amour imperceptibles ou d'évoquer des mains qui manquent. Et si Isabelle Levesque nous offre tant de fleurs, c'est qu'elle les aime. Elle les photographie. Elle passe du temps au quotidien auprès d'elle pour trouver en chacune une personnalité. Dans ce livre, chaque fleur est personnifiée. Nous nous en sentons proches. Nous devenons des fleurs à notre tour, très certainement. Je garde l'image dans le mouvement qui m'incline, écrit Isabelle. Le vent très présent dans Voltige fait danser les fleurs et aussi les force à se courber et aller contre lui et à se redresser toujours. Une écriture qui donne ou redonne souffle, qui rend la vie, qui permet de revivre les instants et la nuit. C'est une écriture sensuelle où la nuit séparée du jour, tes bras me glissent tes épis, les blés, les cheveux. Une originalité quand tout se mêle, crée des images emplies de poésie. Quand la langue s'invente, comme par exemple ta fièvre florale, ravive les blés. C'est coquelicot la vie toujours. Notons l'importance du coquelicot dans l'œuvre d'Isabelle Levesque, aussi bien en photographie qu'en poésie. Une fleur à multiples sens, fragile, à la couleur chaude, écarlate, brasier, sang, qui dit la vie, l'amour, la mort et la mémoire. Le coquelicot est un symbole fort. Le coquelicot n'est pas seul. Beaucoup de fleurs, des champs, comme le bleuet, les marguerites, les jonquilles, les chardons, les pâquerettes, les boutons d'or, sont présents dans ce livre. C'est l'or en fleurs, dit Isabelle Levesque. Elle écrit comme les fleurs passent leur âme dans celle d'un être aimé, et aussi leur couleur dans les yeux. Sur tes lèvres, mes mots fleurissent. Les mots, les fleurs permettent de se recoudre au ciel. Il y a dans Voltige le temps qui ne revient pas. Derrière le temps, je vois l'or, car l'arbre ne renaîtra pas. Ainsi, deux hommes entrent dans la danse des fleurs. L'un, figure manquante, certainement paternelle, et l'autre présent dans les nuits où l'on sent les corps se courber à l'instar des fleurs. La danse des fleurs mêlée aux baisers, les corps au rythme du vent et de la nuit. Ainsi se rejoignent, au fil de la lecture, sensualité et absence, deux figures masculines. Tu répondais au soleil par un nom de fleur. Ainsi, les corps légers comme les fleurs se plient au vent, se redressent sur terre ou vers le ciel. Ainsi nous sommes. Ainsi, le regard d'Isabelle Levesque sur la vie rend au monde sa beauté. Mort et vie dans ce livre, mais les fleurs sont d'éternelles renaissances. Dans chaque poème, il y a un rythme. Dans chacun, la langue se renouvelle. Et surtout, il y a les peintures de Colette Deblé qui illustrent ce livre avec des femmes du passé que l'artiste fait renaître, rouge coquelicot, en mouvement sur la page. Ce livre, il fait du bien. Il nous apporte légèreté et il permet la voltige au lecteur, nous rappelle que le monde est beau, là, sous nos pieds. Donc un petit extrait. Je reste où livre à demeure, je recompte. Au champ, les brins, à tout jamais. Rien ne fait pétale à revers, c'est coquelicot la vie toujours. Orchestre, cacophonie, la cour des fleurs. Je veux des gestes oranges, de tiges frêles, toute une heure sise de silence. Je veux tordre le cou des principes pour éteindre le corps lent du soir.
Le temps nous manque de sorte que vous ne pourrez découvrir le livre d'Éric Sautou dont Cécile voulait nous parler qu'à la rentrée au mois de septembre. Voilà, je vais vous laisser dans les mains de Patrick Jokel dont c'est la chronique à présent et je vous dis quant à moi à dans quelques mois pour une prochaine édition de La Route Inconnue. Ce sera donc désormais au mois de septembre avec plein de nouvelles surprises comme d'habitude. Allez, excellent été à tous à l'écoute des programmes de Radio Ranciel, bien sûr.
Bonjour. Pour cette dernière chronique de la saison, je vais vous parler d'un livre édité en 2017 au Castor Astral. Un livre de Thomas Vineau, Il y a des monstres qui sont très bons. La poésie, le poème, un sourire qui répond à notre silence. Une seule condition, ouvrir la fenêtre, ou bien ouvrir le livre des bons monstres de Thomas Vineau. On y croise un ours, celui de l'enfance en peluche, celui sauvage qui hante les livres du Grand Nord, celui d'un immense amour. On y aperçoit une tribu d'hommes, tous différents et tous en quête, chacun la sienne. Un âne marin d'eau douce, et un jeu qui tombe à l'eau, tombe à la mort. Deux ombres solitaires, une troupe en marche et de vieux seigneurs qui oublient leur âge et tant d'autres choses de leur vie. Des poèmes dans ce livre comme de petites histoires. Et d'un poème à l'autre, on entre sous différents angles dans la condition humaine, ses parts d'ombre et ses hectares de lumière. Thomas Vineau dresse ici une sorte de cartographie imaginaire d'un peuple d'ombres en marche, d'ombres qui, face à leur perte, sont prêtes à tout croire. Tu es prêt à dépecer toutes les planètes pour te sentir moins seul, moins perdu, moins craché là, et tu veux croire tous les mensonges, toutes les promesses que les abeilles font aux fleurs, que les limaces font aux salades, que les monstres se font entre eux, entre nous. Dans un seul point de contact entre deux mains, la mort meurt. Alors, je vais retrouver un texte, un extrait de ce livre, Crachella. Chacun tente de saisir la sublime et infâme confusion de vivre avec le peu qu'il y a de mots. Un peu comme ce chiot qui s'évertue à mordre le ciel dans les reflets d'une flaque d'eau. Crachella, sur la couche souillée de la nuit, un noyau carapace de sourire, quelque chose est prêt à naître du néant, glavio intergalactique. Crachella, diamant de sang. Tu alignes les jours en bâton d'allumette, comme si une route était une route, comme si un arbre était un arbre, comme si une vie était une vie, et que chaque chose avait une place et que chaque place avait un sens. Tu mets des boîtes dans des boîtes dans des boîtes, et pendant ce temps-là, ta viande brûle dans une délicate bacchanale de pourriture et de chants d'oiseaux. Crachella, tu souffles ta propre flamme en sécrétant le jus puant insignifiant de la beauté. Crachella, tu te colles au cul de celui qui te précède, tu rentres dans la file qui suit la direction que personne ne connaît. Crachella, tu constitues une famille, une horde, une troupe, une nation de chacune de tes erreurs. Voilà, c'était Thomas Vineau. Il y a des monstres qui sont très bons, c'est au Castor Astral. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bel été, plein de lectures et de découvertes en poésie et ailleurs. À bientôt. Understood.